Bien, bonjour à tous. C'est donc le dernier volet des séminaires associés à mon cours de cette année. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui deux jeunes collègues italiens, à savoir Anna Angelini et Francesco Massa, que je vais donc vous présenter de façon successive, en commençant par Anna Angelini, puisqu'elle prendra la parole la première. Et comme, selon notre habitude, notre bonne habitude qui est rodée maintenant, nous allons donc entendre Anna, puis vous aurez le loisir de poser des questions ponctuelles sur son intervention, puis je passerai la parole à Francesco, et ensuite nous aurons, au-delà des quelques questions ponctuelles qui pourraient surgir sur son intervention, nous aurons une discussion générale sur les thématiques qui sont abordées et qui sont évidemment en phase avec ce dont je vous parle depuis maintenant quelques semaines, mais dans les prolongements à la fois dans le cadre du judaïsme hellénistique et dans le cadre de l'Antiquité chrétienne, enfin les débuts du christianisme. Donc, je commence par Anna. Anna Angelini est donc, a obtenu une maîtrise en langue et littérature hébraïque à l'Université de Milan, puis un doctorat en anthropologie du monde ancien en 2008 à l'Université de Sienne. Elle a écrit une thèse sur la comparaison, c'est évidemment cette dimension qui m'intéresse tout particulièrement, la comparaison entre Israël et le monde gréco-romain quant à l'imaginaire des animaux et des monstres. Et cette thèse a donné lieu à une publication assez récente, en 2018, chez l'éditeur italien Il Mulino, avec un ouvrage joliment intitulé « Dal Leviatano al Drago », tout un programme. Anna a fait, après sa thèse, différents séjours de recherche postdoctorale à la fois à Paris, donc où elle revient, ce n'est pas la première fois, mais où elle revient, et à Jérusalem. En 2012-2013, elle a été boursière d'excellence à l'Université de Genève, et aujourd'hui, elle est à l'Université de Lausanne, comme responsable de recherche à l'Institut roman des sciences bibliques. Et en fait, Anna travaille sur l'imaginaire du démonique, on va dire du démonique plutôt que du démoniaque, depuis quelques années maintenant, et elle est d'ailleurs intervenue ici même sur un sujet voisin lors d'un colloque sur ces entités, les anges, les démons, les daimones, organisé dans le cadre de la chaire des milieux bibliques de Thomas Römer. Et vu ses intérêts et les miens, qui se sont évidemment croisés lors d'une rencontre, je lui ai demandé de nous faire partager ses réflexions sur le daimon dans la traduction, notamment dans la traduction grecque de la Bible, et je lui passe immédiatement la parole. Merci beaucoup d'avance.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite tout d'abord remercier vivement Vinciane Pirenne de son invitation dans le cadre de ce séminaire, car elle me permet de vous présenter justement aujourd'hui quelques réflexions à propos d'un dossier sur lequel je travaille, comme elle l'a dit depuis quelques années, à savoir la notion des démons dans le judaïsme ancien, et notamment dans ces courants de judaïsme qui s'exprimaient en langue grecque. Comme vous l'avez certainement déjà appris pendant ces séminaires et pendant les cours de Madame Pirenne, la notion des daimons en grec est caractérisée par une polysémie considérable, et elle peut recouvrir des domaines sémantiques divers. La polysémie du daimon soulève au moins deux problèmes, me semble-t-il, du point de vue historico-religieux. Le premier concerne l'interaction entre la notion des daimons et celle des dieux, à savoir la possibilité de définir et de délimiter la puissance divine représentée par les daimons par rapport à celle qui est non moins complexe, exprimée par Théos. Le deuxième problème concerne la difficulté de la superposition, si on peut dire comme ça, entre l'idée ancienne du daimon et la notion plus moderne, plus familière et d'héritage judéo-chrétien de démon. À ces deux égards, les dossiers de la littérature juive en langue grecque constituent, me semble-t-il, un bon point d'observation, car il met inévitablement en dialogue deux cultures, celle sémitique, pour ainsi dire sous-jacente, et celle véhiculée par les modes d'expression, à savoir les Grecs. En outre, cette production s'inscrit dans les contextes historiques de l'époque hellénistique, qui entraîne une série de transformations religieuses dont les deux cultures participent. À ces propos, je profite de ces quelques mots d'introduction pour préciser qu'est-ce que j'entends là lorsque j'utilise l'expression, à certains égards un peu imprécise, du judaïsme hellénistique. Je me réfère à cette production juive en langue grecque composée grosso modo entre les 3e siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ. Tout en étant consciente que cette littérature présente des relations étroites avec le reste de la production contemporaine juive en araméen et en hébreu, et que la période que je prends en compte ici s'étend techniquement jusqu'à la première époque impériale, j'estime néanmoins que le médium de la langue confère à ces traditions juives des caractères distinctifs, à la fois par rapport à la littérature rabbinique et au reste de la littérature du soi-disant Second Temple. Par conséquent, j'estime que ce soit légitime d'en faire un objet d'analyse séparé. Après cette précision, disons, méthodologique, je vais commencer tout de suite par quelques thèses qui ont eu une influence considérable sur l'histoire de la notion religieuse des démons dans l'Antiquité et qui sont particulièrement pertinentes pour mon dossier. La première est celle du très regretté Marcel d'Étienne, qui dans son ouvrage sur les daimons dans le pythagorisme ancien, voyait les daimons comme porteurs d'un signifiant à l'origine flottant qui ne correspondra plus qu'un seul signifié. À noter que dans cette perspective, l'usage des daimonion chez les auteurs chrétiens représenterait l'évolution ultime de ces parcours. Et en support à cette thèse, on peut également mentionner les recherches plus récentes de Giulia Sfamini Gasparro, qui a beaucoup travaillé sur les daimons à l'époque hellénistique et qui assigne à ces contextes la définition de la catégorie des démons comme un être intermédiaire et médiateur entre les hommes et les dieux. Un troisième schéma et complémentaire qui est devenu classique dans les études bibliques est celui selon lesquels l'apparition du mot daimon et daimonion dans la traduction grecque de la Bible, donc la Septante, entraînerait automatiquement la présence de la notion des démons, laquelle aurait été en revanche absente ou très peu présente dans la Bible hébraïque. Les démons, alors expulsés de la Bible hébraïque pour des raisons théologiques, seraient ainsi réintroduits dans la Septante par les biais du grec. Je me propose de questionner ces thèses en interrogeant la sémantique du daimon selon la perspective suivante. Dans quelle mesure les usages de ces termes dans la littérature juive en grec reflètent les usages qui sont propres à la culture grecque ou impliquent-ils un dialogue entre les traditions religieuses proprement grecques? Et en revanche, dans quelle mesure ils sont en continuité avec des traditions levantines ou proches orientales plus larges? Et enfin, en quoi consistent-ils les aspects novateurs? J'essaierai de répondre à ces questions par un parcours en trois parties. Mon point de départ portera sur la sémantique du daimon et daimonion dans la Septante. Et il s'agit pour moi du choix le plus naturel si on considère le fait que la première traduction de la Bible représente les plus larges, les plus anciens et les plus riches corpus de littérature juive en grec qui nous est parvenu. Et en outre, la Septante demeure, au moins jusqu'au 1er siècle de l'ère, les principaux, sinon les seuls textes bibliques de référence pour les auteurs juifs, lesquels citent souvent cette version de la Bible, alors que le rapport avec les textes hébreux est un peu plus compliqué à définir. Deuxièmement, j'analyserai quelques traditions juives, littéraires et non littéraires, qui attestent d'une continuité avec les usages de la Septante. Et troisièmement, j'amènerai des exemples d'auteurs juifs qui montrent des discontinuités évidentes par rapport à ces usages. Je terminerai enfin par quelques remarques sur les implications de cette étude. Donc, daimonia et démon dans la Septante. Dans la Septante, le terme daimonia apparaît environ 18 fois et il est largement préféré à daimon, qui a testé seulement une fois. Je ne m'attarde pas ici, en ces moments, sur les raisons possibles et les limites de cette distinction, mais on pourra y revenir, si vous le souhaitez, pendant la discussion. Comme il est souvent le cas dans la traduction grecque de la Bible hébraïque, ces termes grecs traduisent plus qu'un mot en hébreu, et vice-versa, les mêmes termes hébreux peuvent être rendus par plusieurs équivalents grecs selon les différents contextes. Il est néanmoins possible de décerner trois, me semble-t-il, contextes d'usage principaux. Le premier contexte est celui de la polémique contre les dieux étrangers et les cultes impropres qu'il aurait offerts. Cette polémique commence déjà dans le Pentateuque et notamment dans un passage de Deutéronome 32, verset 17, où on dit que les Israélites firent des sacrifices à des démons et non à Dieu, Eloah dans l'hébreu, et Théo en grec, à des dieux qu'ils n'avaient pas connus, des dieux étranges ou nouveaux, Kaina, récents son arrivée que leur père ne connaissait pas. La caractérisation des dieux étrangers comme démons se retrouve également dans d'autres passages qui montrent une dépendance littéraire des Deutéronome 32, donc les psaumes 106, Baruch, des formulations similaires. Et ici, les Grecs daimonia traduit toujours l'hébreu shedim, qui signifie démon. Ces passages méprisent les dieux des non-israélites, en soulignant que si ces dieux des autres peuples peuvent être qualifiés comme des théoi, ils ont clairement un statut inférieur à celui de Yahvé. D'autres textes vont encore plus loin et insistent sur les caractères aberrants de ces cultes, en précisant que les cultes aux démons consistent par exemple des sacrifices humains, ou en suggérant une proximité entre culte aux démons et culte aux idoles. Comme le montrent ces deux passages parallèles, un psaume, le passage du psaume 95 et le même passage qui est réécrit ou réutilisé par l'auteur des livres des chroniques. Donc dans les premiers, on lit « Oipantes oiteoi tonetzlon daimonia », donc « Tous les dieux des peuples sont des démons ». Et dans l'autre, on lit « Oipantes oiteoi tonetzlon eidola », donc « Tous les dieux des peuples sont des idoles ». Un cas tout particulier dans ces cadres est représenté par deux passages d'Ésaïe, où il est question des sacrifices domestiques qui suscitent la colère des Yahvé. On est en Ésaïe 65, verset 3. « Ces peuples qui m'exaspèrent en ma présence tout le temps, ils sacrifient dans les jardins et brûlent l'encens sur les briques aux démons qui n'existent pas ou aux démons dans les maisons. » Et encore au verset 11, « Mais vous qui m'abandonnez et qui oubliez mon saint, qui préparez une table pour les démons, daimoni, gad, et remplissez une coupe pour la fortune, tuke, meni en hébreu. » En regard à la tradition manuscrite, nous donne ici quelques informations supplémentaires. Au verset 3, l'expression « aux démons qui n'existent pas » n'a pas de correspondant dans les textes hébreux. Elle est clairement marquée par Obélus, par Jérôme. Et la tradition lucianique, située à Antioche, préserve ici la leçon « en tois oikousin » dans les maisons, au lieu de « a ouk estin » qui n'existe pas. En outre, au verset 11, les Codex Sinaiticus et une partie des manuscrits ont la leçon « daimoni » que j'ai préféré ici, au lieu de « daimonio ». Comme le suggérait déjà Isaac Seligman et plus récemment Joachim Schaper, il est très probable que le traducteur du livre d'Ésaïe ait reconnu dans les sacrifices offerts pour Gad et Meni dans l'hébreu des formes du culte de la bonne fortune et du bon démon, extrêmement populaires à l'époque hellénistique et romaine, en Égypte et dans les Levant. Cette interprétation pourrait également justifier la présence de la forme daimon comme forme originaire choisie par les traducteurs ici, préservée par les Sinaiticus. Et l'expression dans les maisons, propre à la tradition lucianique, pourrait alors faire référence au caractère domestique de ces cultes. Ici, un exemple du bon démon. Tout en restant dans le contexte de la polémique avec les dieux étrangers, dans ces cas spécifiques, il ne s'agit pas de réduire ces divinités à des démons, comme dans les passages précédents, mais la référence est directement au culte de Tuke et de l'Agathodaimon. La polémique contre les dieux nouveaux ou étrangers n'est pas sans parallèle dans les mondes grecs, bien sûr. Il suffit de penser aux accusations portées contre Socrate, dans les passages très célèbres de Platon, de l'Apologie de Platon, qui est celle d'introduire des daimonia kaina, non officiellement reconnus par la cité. Cette formulation fait évidemment référence au daimonion de Socrate, mais elle joue également sur l'ambiguïté qui caractérise les rapports entre daimones et theoi dans les mondes grecs. De plus, on a des passages en Plutarque et en Strabon qui occasionnellement qualifient comme daimones les dieux étrangers, par exemple Osiris dans Isis de Plutarque ou les dieux des Gaules, dans la géographie de Strabon. Toutefois, nulle part, me semble-t-il, dans les traditions grecques, cette polémique acquiert des tonalité si violente et prononcée comme dans la Septante. Et par ailleurs, il faut observer que cette polémique de la Septante prolonge et dépasse même les discours qui est mené dans la Bible hébraïque. Le deuxième contexte d'usage des daimonia dans la Septante se trouve encore chez Isaïe, chez les traducteurs d'Isaïe. Mais il est de nature différente, car il intervient dans des oracles sur Babylone et sur Édom. Au chapitre 13, verset 21, Daimonia traduit les mots Saïr à la lettre Bouk, et en Ésaïe 34, 14, il correspond à l'hébreu Tsiim, un terme de compréhension difficile qui indique les habitants du désert et de la steppe. Et là, dans les Grecs, on a ces deux formules assez similaires. Là-bas se reposeront des bêtes sauvages, les maisons seront remplies des bruits, là-bas se reposeront des sirènes, des démons danseront. Et encore, des démons rencontreront des anges centaures, ils crieront l'un vers l'autre, là-bas se reposeront des anges centaures, car ils trouveront un repos, etc. On est ici dans les paysages des ruines, à savoir des villes qui sont détruites à jamais, abandonnées par les humains et repeuplées par des animaux sauvages. Il s'agit d'un vrai topos de la littérature biblique et proche-orientale qui se retrouve dans plusieurs sermons et oracles des malheurs. Ici, vous en avez un exemple dans des inscriptions araméennes du 8e siècle avant l'ère des Sphirées. La Babylone d'Ésaïe 13 est notamment un paradigme de ces villes destinées à être transformées en espaces désertiques. Les daimonia sont donc mentionnés ici en compagnie des bêtes sauvages, des sirènes et des anges centaures. La plupart de ces créatures n'ont pas un équivalent, au moins un équivalent littéral dans les textes hébreux, mais semblent relever de l'exégèse du traducteur d'Ésaïe. Ces traducteurs, qu'on a déjà vu au chapitre 65, être un bon connaisseur des traditions grecques, a réinterprété les paysages du désert et des soi-disant habitants des ruines, et rend un lexique hébreu qu'il faut les rappeler est rare et difficile, selon un nouveau paradigme qui est le paradigme des escatiailles et des mirabilia des régions exotiques et marginales du monde, à savoir des régions où les créatures et les animaux les plus bizarres peuvent être repérés, telles qu'elles sont décrites déjà chez Aristote, mais surtout chez les naturalistes de l'époque tardo-hellénistique et romaine, comme Pline l'Ancien et Hélien. Et vous avez ici un exemple de la mosaïque de Préneste avec une mention de l'encenteur et la description que Hélien donne de l'encenteur. Dans ces nouveaux paradigmes, les démons trouvent également leur place comme figure de l'exoticisme. Le troisième et dernier scénario où Daimonion apparaît est celui des démons comme agents capables d'attaquer les humains, responsables des maladies et des morts. Le passage le plus fameux est celui du psaume 91 en hébreu et 90 en grec, où Laurent invoque la protection des Yahvé contre la maladie et les démons de midi. Vous avez ici les versets 3 à 6, je vais lire seulement les versets. Les derniers versets, « Tu ne seras pas effrayé par quelque chose qui marche dans l'obscurité, par une chute ou par une maladie, ni par un démon de midi. » Il faut souligner qu'il n'y a pas de démon de midi à proprement parler dans l'hébreu, mais que les traducteurs avaient lu probablement les mots « véched » et « les démons » au lieu du verbe qu'il y a en hébreu « yashoud » dérivé d'une racine « shadad » qui signifie « détruire et ravager ». Dans le même sens, les nombreuses occurrences de daimonion dans les livres des Tobit, une nouvelle très populaire à l'époque hellénistique, sont toutes référées au mauvais démon Asmodée, Toponeron Daimonion, il est appelé comme ça, qui attaque et tue les sept époux de la jeune fille juive Sarai, jusqu'à quand il n'est éloigné par une mixture des foies et cœurs des poissons préparée par les jeunes Tobias sous les guides de l'ange Raphaël. Il s'agit d'un vrai procédé exorcistique qui nous amène au cœur de la superposition entre Daimonion et les démons tels que nous les connaissons. Un contexte d'exorcisme est envisageable déjà à l'époque du Second Temple, également pour les psaumes 91, qui à Qumran est transcrit sur un petit rouleau des psaumes dits apocryphes qui sont achantés sur les possédés. C'est la subscription de ces rouleaux. Il faut relever que ces psaumes ainsi que les livres des Tobit représentent les démons comme des véritables agents hors système, à la différence d'autres agents des maladies mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque et dans la Septante, les anges des malheurs, les esprits et d'autres encore. Ces démons n'appartiennent pas à la cour céleste ou sont en tout cas très mal contrôlés par la divinité. sinon opposée à la divinité. Les noms même d'Asmodée, qui n'est pas sémitique, attestent de cette étrangeté. La notion des démons comme puissance externe et isolée, attaquant les humaines et opposée aux dieux institutionnalisés, a des racines anciennes dans les traditions du Proche-Orient. Elle se retrouve couramment dans le recueil d'incantations acadiennes jusqu'au premier millénaire et apparaît également sur l'une des rares amulettes qui vient du Levant et qui préserve des formules incantatoires. Il s'agit de l'amulette retrouvée en Syrie à Aslantash où les grands dieux de la cité sont convoqués pour détourner les puissances véritablement démoniaques qui peuvent attaquer ou mettre en danger la maison. En puisant dans cette tradition ancienne, la Septante introduit ainsi un élément véritablement polythéiste par rapport au théisme presque monarchique qui domine la Bible hébraïque. La notion des daimons véhiculée ici représente également une innovation importante par rapport à la sémantique traditionnelle du daimon en grec. Elle est néanmoins en convergence avec des croyances grecques, par exemple, comme Philippe Bourgeot l'a bien montré, avec toutes celles qui sont relatives au danger de l'heure du midi, l'heure de l'épiphanie des ponts et des nymphes. De plus, cette représentation des daimonia est en ligne avec certaines tendances de la démonologie hellénistique qui sont attestées par Plutarque, mais qui remontent à la philosophie déjà platonique et pythagorique. Par exemple, Plutarque justement nous rapporte ses observations du disciple de Platon, Xénocrate, à propos des puissances divines auxquelles on attribue les expiations, les jours néfastes, les mystères et les sacrifices humains. Je crois pouvoir dire que de telles pratiques ne s'adressent à aucun des dieux, mais à des mauvais démons, faulos et daimones, qu'il s'agit d'écarter, de fléchir, d'apaiser. Et encore, un autre témoignage vient de l'érudite historienne Alexandre Polystor, qui rapporte des croyances similaires propres aux pythagoriciens, qui voyaient dans les daimones les responsables des maladies des humains et des animaux. Donc tout l'air est rempli d'âmes, on les appelle démons et héros, et c'est eux qui envoient aux hommes les songes et les signes et les maladies, et pas seulement aux hommes, mais aussi aux moutons et au reste du petit bétail. C'est à ces démons que l'on adresse les purifications et les rites des détournements, et toute la mantique et les sorts et les choses du même genre. Dans ces cadres, avec les daimones, avec les héros, se laissent décrire comme des puissances qui sont bien distinguées des tseoi. Si on considère donc les usages de la catégorie des daimon et daimonion dans la Septante dans son ensemble, on remarque que d'un côté, la sémantique du daimon est loin d'être univoque. Au contraire, les contextes sont encore pluriels et diversifiés. Les daimones ou daimonia sont bons à penser plusieurs choses, on dirait. Les dieux des autres, les habitants des ruines, les agents des maladies. Et même l'agatodaimon fait son apparition chez les traducteurs grecs. De l'autre côté, les traducteurs n'exploitent pas toute la sémantique du daimon dans son entier, mais sélectionnent des axes précis selon des traits pertinents qui sont favorisés parmi d'autres. Ils figent ainsi des significations assez nettes, dont les caractères récurrents semblent être la mise en question du statut divin des daimonia, ainsi que de leur appartenance à un panthéon indigène. Si on élargit maintenant les regards à d'autres traditions juives en langue grecque, on observe que non tous les choix qui ont été proposés et opérés par les traducteurs ont connu les mêmes succès. On peut regarder point par point de plus près. Les thèmes du culte rendu aux démons est repris et radicalisé dans les traditions juives sur Enoch. En développant ici le récit des anges veilleurs, les anges déchus, qui se sont unis aux femmes, qu'on trouve dans une forme très synthétique dans le chapitre 6 de la Genèse, les versions grecques du livre d'Enoch mentionnent des sacrifices aux démons faits par les humains déviés par cette génération des puissances célestes corrompues. Ces sacrifices sont les signes d'une impureté qui s'est désormais répandue chez les hommes. Et Uriel, donc un ange, me dit, ici ce sont les anges qui se sont unis aux femmes et leurs esprits qui sont multiformes, souillent les humains et les font dévier jusqu'à qu'ils offrent des sacrifices aux démons, jusqu'au grand jugement. Et leurs femmes, ceux des anges qui ont transgressé, seront transformées en sirènes. Au passage, je rappelle en outre que ce thème sera également repris par Paul dans la première épître aux Corinthiens et sera largement développé par les auteurs chrétiens. Et chez les chrétiens, comme Daniel Barbu l'a bien montré lors de ses recherches sur l'idolâtrie, la vénération des idoles et les sacrifices aux démons sont étroitement liés et les démoniaques deviendra les chiffres pour penser la religion des autres, hein, comme Francesco Massa vous expliquera tout à l'heure. Si on passe au deuxième motif, celui des habitants des ruines, on remarque que celui-ci est absent des traditions juives en langue grecque, mais il convient toutefois de rappeler qu'il a en parallèle à Qumran, dans les rouleaux de la mer morte. Ce texte, qui est connu comme les chants du Maskil, dont vous voyez ici l'état fragmentaire, est l'une des sources les plus importantes pour la démonologie qumranienne. Et il liste une série de démons que les chefs de la communauté, nommés Maskil, se chargent de chasser, d'exorciser. Là encore, les démons sont associés à des animaux sauvages. Mais pour les restes, le rapport entre les animaux fantastiques et les créatures qui peuplent les escatiaïs qu'on avait vus typiques du traducteur d'Ésaïe, reste sans véritable influence sur les restes de la tradition juive. Probablement, en tout cas c'est mon hypothèse, car il était trop spécifiquement enraciné dans les traditions érudites d'Alexandrie. La notion de daimonion comme puissance externe, malfaisante et agressive, donc troisième contexte, à savoir du daimonion comme véritable démon, est sans doute la plus populaire. Elle est fortement développée à Qumran, dans les Nouveaux Testaments, dans toute une série de traditions que l'on nomme judéo-chrétiennes du 2e et 3e siècle, quand leur apogée dans les Testaments de Salomon, tradition qu'on laisse ici de côté parce qu'influencée par le christianisme et parce qu'elle sort du cadre chronologique de notre étude, mais on la retrouve aussi dans des traditions juives, et notamment chez Flavius Joseph. Dans les antiquités juives, il identifie les esprits, les pneumata, qui tourmentent les rois Saül à des puissances démoniaques. Saül se retira après ses exhortations, et la divinité Totéion quitta Saül pour s'attacher désormais à David. Celui-ci commença de prophétiser grâce à l'esprit divin, tu theou pneumatos, qui avait pénétré en lui. Quant à Saül, il était en proie à des souffrances et envahi par des démons, daimonia, qui lui causaient des suffocations et des angoisses atroces. Les médecins ne trouvèrent d'autre remède que de lui conseiller de faire chercher quelqu'un capable de chanter et de jouer de la harpe. Et toutes les fois que Saül serait assailli et tourmenté par les démons, de placer ses musiciens, qui est bien sûr David, au chevet du roi pour faire vibrer ses cordes et réciter les cantiques. Et on notera que ces mauvais esprits, ici qualifiés de daimonia, ne sont plus envoyés directement par Yahvé, comme c'était le cas dans la Bible hébraïque et dans la Septante, mais semblent agir de leur propre initiative. On ne sait pas, on ne sait plus d'où ils viennent. Encore dans les livres 8, Joseph donne encore des exemples sur une techné kata daimones, une capacité d'exorciser attribuée de Yahvé au roi Salomon, mais aussi à certains juifs qui sont contemporains de Joseph, comme un certain Éléazar, qui fait concurrence à l'habilité dans les exorcismes traditionnellement assignés à l'empereur Vespasien, attestée celle-ci par plusieurs sources latines. Et enfin, encore un passage dans la guerre des Juifs, Joseph mentionne une racine nommée Baharas, très dangereuse, mais très recherchée, avec laquelle on prépare une recette contre ta calumena daimonia, les soi-disant démons. Et il explique que ces soi-disant démons sont des esprits des hommes mauvais qui entrent dans les corps des vivants et les tuent si on ne leur apporte pas de l'aide. Et ici, ces soi-disant démons semblent être les produits d'idées grecques sur les daimones liées aux esprits de défunts qui ont été mélangés avec des traditions bibliques sur la possession. Or, l'idée du daimonion comme puissance agressive n'est pas une construction exclusivement littéraire, mais également bien attestée par plusieurs textes et objets appelés magiques. L'exemple le mieux connu est cette recette préservé par les papyrus magiques numéro 4, ligne 3786, une section du papyrus très fameuse et très bien étudiée. et dont l'origine juive est très probable, car elle est déclarée explicitement à la fin de la section, Hogar Logos Esti Hebraikos, le charme est juif. Les textes a comme titre Charme de Pibekis, le nom d'un magicien égyptien, contre les possédés par des démons. Et il contient une recette de plusieurs herbes qui sont faites pour chasser toutes sortes de démons, ainsi qu'une conjuration qui est faite sur les sceaux ou par les sceaux du roi Salomon. Donc les similarités avec les témoignages de Flavius Joseph sont frappantes. Une idée très similaire est également attestée sur quelques gemmes magiques d'époque romaine. Et il vaut la peine ici de mentionner un exemple du 1er siècle de l'ère, conservé ici derrière, à Paris, à la bibliothèque Saint-Geneviève, qui était des propriétés d'une certaine Vibia Paulina et qui porte sur les rectos une formule de protection avec une série de noms divins où les éléments juifs dominent, noms divins au pouvoir magique. Donc Yao, Abrazax, Adonai, nom sans puissance favorable, protégé Vibia Paulina, et sur les versos, Apopantos Kakudaimonos, des tout méchants démons. En comparant cette gemme avec d'autres qui ont appartenu à cette même Vibia Paulina et qui portent des formules similaires, ainsi qu'en comparant ces données avec ce que les sources littéraires nous disent sur l'intérêt pour la magie juive de la part des matrones romaines, Attilio Mastrocinque, qui a étudié ces pierres, émet l'hypothèse que cette gemme ait été effectivement produite par des magiciens juifs. Si cette notion de daimonion, comme puissance agressive, étrangère et maléfique, inaugurée par la Septante, est attestée dans des milieux juifs divers autour de l'ère, on reste néanmoins loin d'un usage exclusif du terme. Et en fait, à côté de ces exemples, on en repère d'autres et d'autres traditions qui sont beaucoup plus alignées sur ce qu'on définirait la tradition classique grecque. Et ça me permet de passer à la troisième et dernière partie. Il n'est pas étonnant de trouver Philon d'Alexandrie parmi les auteurs chez lesquels l'usage des daimon et daimonion relève de la polysémie qui était traditionnellement associée à cette notion. Ces mots n'apparaissent pas fréquemment dans son corpus et Philon semble bel et bien ignorer complètement les traditions de la Septante ou les choix de traducteurs. Daimon et Daimonion apparaissent les deux dans des contextes où on fait référence à une puissance divine indéterminée qui souvent intervient dans les affaires humaines. Cela s'avère lorsque c'est un grec qui parle, comme ici un personnage d'Athènes qui dit « je ne sais plus quel daimon ou théos m'a poussé à quitter la ville pour les mieux. » Ou lorsqu'on est en plein contexte biblique, comme dans ce deuxième passage, l'épisode de Balaam, où Balak amène le devin Balaam sur une colline où il se trouve dresser une stèle, Tinos Daimonium, d'une quelque divinité qui était vénérée par les habitants de la région. En outre, dans son livre sur l'origine des géants, qui commente ces chapitres, il y a un commentaire au chapitre 6 de la Genèse dont nous avons parlé, Philon donne une interprétation complètement différente du mythe des veilleurs par rapport à ce que nous venons de voir dans les livres d'Enoch. Ici, il nous dit « Les anges de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient choisies. Ce que les autres philosophes appellent daimonas, Moïse les appelle également anges. Ce sont des âmes, psychai, volant dans l'air. » Philon adhère donc ici aux traditions philosophiques grecques sur l'identité entre daimones et psychai comme substances divines qui voyagent dans l'air, traditions qui pourraient remonter dans leur forme plus ancienne à Hésiode, mais qui sont ensuite développées, comme on l'a vu, dans les courants platoniciennes et pythagoriciennes. Quelques lignes suivant, il nous dit, donc si tu considères que âme, daimones et ange, angeloi, donc psychai, daimones et angeloi, sont des noms différents qui renvoient à une seule et même réalité, tu déposeras l'écrasant fardeau de la superstition. Dans ces cas, le souci des Philons n'est pas du tout celui de questionner la nature des daimones comme puissance divine, mais de pouvoir au contraire introduire les angeloi, messagers autochtones de la tradition juive, dans ces systèmes des figures plurielles du divin, on dirait. Et une polyvalence du daimon est également attestée chez Flavius Joseph. Si on exclut les trois passages dont on a parlé auparavant, toutes les autres occurrences assez nombreuses des daimon et daimonion sont alignées sur les significations classiques. Et je vous présente ici juste une petite sélection. Daimon ou daimontis peut indiquer généralement le destin, les sorts, bons ou mauvais. Il peut être également accompagné par tuke. Donc dans la formule, payer son tribut à la fortune et au daimon. Pardon pour la coquille. Encore, l'expression to daimonion peut indiquer la divinité de manière indéterminée lorsqu'elle souvent fait changer soudainement des plans préétablis par les hommes. Comme dans ces cas, Antipater s'arrangea leur avis par l'effet d'une volonté divine et mit les capes directement sur les ports d'Auguste. Encore, on retrouve une représentation des daimones, ce qui est typique de la poésie tragique grecque, comme les morts de la famille. Chez Joseph, ces daimones sont les membres de la famille royale qui ont été tués dans les intrigues du palais et qui demandent vengeance auprès des vivants. Comme dans ces cas, les fantômes, on traduirait fantômes presque ici, les daimones d'Alexandre et Aristobule, qui viennent d'être tués par leur père Hérode, parcouraient le palais dans tous ses recoins à la recherche de la vérité qu'ils faisaient sortir de ses cachettes, entraînant à l'interrogatoire des gens on ne peut plus éloigner des soupçons. Encore, on a un usage adjectival des daimonios dans la signification des divins et surnaturels, parfois opposé à d'anthropinos, ou dans des expressions comme daimonio pronoia, ec daimonio pronoias. Et il vaut la peine de souligner que ces usages ne semblent pas du tout déranger notre auteur, même quand derrière cette divinité indéterminée, cette puissance surnaturelle, on comprend clairement qu'il s'agit de Yahvé. Comme dans ces passages où cette daimonio synergia permet à Joseph de s'échapper aux militaires des Vespasiens. Et enfin, l'adjectif daimonios peut signifier tout simplement extraordinaire, hors mesure, mais tout en étant référé à des sentiments ou à des entreprises humaines. Donc, comme dans cette phrase, mais il y a aussi d'autres exemples, les spectacles des trois rois princes maintenant réunis procura aux citoyens qui le regardaient une joie comme céleste, hein, mais on pourrait traduire aussi extraordinaire, je pense. Quelle conclusion à la fin de ce parcours ? Donc, je souhaiterais revenir brièvement à mes questions de départ à propos de la catégorie des démons. On a vu que la Septante est certes un point de tournure fondamental pour la constitution de la notion des démons telle que nous la connaissons aujourd'hui, et donc pour la convergence entre daimonion et démon. Mais qu'elle fait encore intervenir ce daimonion dans des contextes pluriels et diversifiés. Les traducteurs ajoutent donc des aspects nouveaux à cette sémantique déjà complexe. Ces aspects puisent dans une tradition levantine et proche-orientale ancienne et polythéiste qui voit les démons comme des agents agressifs et mal intégrés à la cour céleste, mal contrôlés par les dieux. Les auteurs juifs, de leur côté, prolongent certaines tendances de la Septante en dialoguant en même temps avec une conceptualisation des daimones qui est propre à la philosophie hellénistique et en inscrivant ces tendances à l'intérieur d'un usage du daimon encore largement polysémique et proche, très proche, sinon identique aux usages classiques. Si le chemin du daimon est caractérisé par une spécialisation progressive vers une notion religieuse univoque, comme le disait Détienne, il faut toutefois relever que ce parcours n'est pas si linéaire qu'on l'a parfois estimé. Il faudra attendre les Nouveaux Testaments et peut-être, San Francesco nous le dira, le Père de l'Église, pour que le terme ne corresponde plus qu'à ce signifié. En outre, il faut souligner que ces daimonia dans la Septante ne se laissent pas comprendre comme des intermédiaires, ni comme des médiateurs entre les dieux et les hommes, mais au contraire comme des puissances avec lesquelles la médiation n'est pas possible et qui par conséquent peuvent seulement être écartées ou détournées. Une toute dernière question qui nous reste à nous poser, ou en tout cas à me poser, concerne la possibilité d'influence. La possible influence des usages juifs sur les mondes religieux grecs, ou là j'entends les mondes religieux grecs non chrétiens. Cette influence demeure somme toute réduite. Si la tendance et l'intérêt des traducteurs et des auteurs juifs à construire la catégorie des daimons en synergie, en dialogue ou en opposition à des référents grecs est évident, le contraire n'est pas pour autant attesté. Les seuls domaines dans lesquels les daimonia du judaïsme hellénistique semblent véritablement influencer d'autres traditions grecques est celui de la magie et des traditions exorcistiques. Cette donnée n'est pas du tout surprenante, parce qu'elle s'inscrit dans la construction de ce que Gideon Boak a appelé un idiome magique unique qui se développe autour de l'ère, premier siècle avant, premier siècle après, qui est attesté par plusieurs textes, objets divers, dont la nature littérée et scribale est préminente. Cet idiome est caractérisé par le mélange d'éléments grecs, égyptiens et orientaux, dans un contexte où l'élément juif joue toute une fascination particulière, un rôle de premier rang. Mais même dans ces cas, l'impact de la notion des daimonions comme étrangers agressifs demeure limité. Il n'est pas si pervasif comme d'autres éléments juifs que l'on retrouve vraiment partout sur les objets magiques, tels que les noms divins, les voces magicae en araméen et en hébreu, ou la popularité des personnages comme Moïse ou Salomon. La présence des daimon ou daimonion dans ces contextes semble plutôt être l'indice d'une origine juive du texte ou de l'objet, comme on l'a vu pour la recette des Pibekis et pour la gemme des Vibia Paulina. En revanche, si on aurait le temps, mais on ne le fera pas, de regarder la grande majorité des autres occurrences, les daimons des papyrus magiques peuvent désigner encore une puissance adjuvante, ou une puissance parèdre, ou un assistant personnel du magicien, ou des dieux chthoniens, ou encore les pouvoirs du défunt et de son cadavre qui est exploité par les magiciens avec cette expression des Neku daimon. Toutes ces figures du daimon sont alors des manifestations de la vitalité polysémique de ces signes qui, encore au premier siècle de l'ère, est loin d'être épuisée. Merci pour votre patience.